Bonjour professeur Fratt et merci d'être avec nous pour cet épisode de l'émission Ligne de mire. Vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital de Poitiers et vous allez nous parler de votre étude concernant la VNI versus Optiflow en pré-oxygénation d'une intubation orotrachéale pour une insuffisance respiratoire hypoxémique. Pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude ?
Bonjour. Alors pourquoi s'intéresser à la préoxygénation et plus largement à l'optimisation de la procédure d'intubation ? Eh bien, contrairement au bloc opératoire, en milieu de réanimation, la procédure d'intubation se complique dans 20 à 25% des cas avec des complications sévères, comme ça a été rapporté dans des études observationnelles. Et la première complication, c'est l'hypoxémie sévère qui est définie par une saturation artérielle en oxygène en dessous de 80%. Et la complication ultime de la procédure d'intubation, c'est l'arrêt cardiaque. Et les études observationnelles ont montré que la survenue d'un arrêt cardiaque était associée soit à une hypoxémie préalable à l'intubation ou encore à l'absence de préoxygénation. Comment peut-on optimiser cette procédure d'intubation ? Revenons sur les différentes phases qui la composent. Tout d'abord, une phase de préoxygénation qui dure 4 minutes. Puis, après l'induction en séquence rapide, eh bien, il y a une phase d'hypoventilation et d'apnée de 1 à 2 minutes, au décours de laquelle on réalise une laryngoscopie, puis l'intubation trachéale pour instaurer la ventilation invasive. Alors, on peut améliorer cette procédure en améliorant l'oxygénation par différentes techniques au cours de la préoxygénation. Alors, les techniques disponibles sont l'oxygène à l'embut, la ventilation non invasive ou l'oxygénothérapie à haut débit nasal. Et ces deux dernières ont montré qu'elles avaient une efficacité sur l'oxygénation supérieure à l'oxygénothérapie standard. Et puis, au cours de la phase d'hypoventilation apnée, eh bien, finalement, les experts ne sont pas tous d'accord sur la poursuite de la ventilation, que ce soit à l'oxygène à l'embut ou avec une ventilation non invasive, en raison du risque de distension gastrique et d'inhalation. Mais là, il y a peut-être un avantage pour l'oxygénothérapie à haut débit, puisque celle-ci est capable d'apporter une oxygénation apnéique avec des pressions très faibles, grâce à un flux continue d'oxygène pur à travers les voies aériennes pendant la laryngoscopie et donc des échanges gazeux, ce qui constitue ce qu'on appelle l'oxygénation apnéique. Quelles sont les données de la littérature en termes de stratégie de préoxygénation ? Donc, il y a eu une étude pilote qui a comparé la VNI à l'oxygène à l'embut au cours de la préoxygénation et qui a montré un bénéfice de la VNI puisque la saturation minimale au cours de la préoxygénation et de la procédure d'intubation était plus élevée sous VNI, de même que les épisodes de désaturation sévère en dessous de 80% de saturation en oxygène étaient moins fréquents après préoxygénation par VNI. Par la suite, après l'essor de l'oxygénothérapie à haut débit nasal en milieu de réanimation adulte, une étude observationnelle et deux essais randomisés multicentriques ont montré soit un effet similaire de l'oxygénothérapie à haut débit nasal et de l'oxygène à l'embut au cours de la préoxygénation sur la saturation minimale ou la survenue d'épisodes de désaturation sévère au cours de la procédure d'intubation, soit une supériorité de l'oxygénothérapie à haut débit nasal, notamment chez les patients les moins sévères, où il semble que l'oxygénothérapie à haut débit nasal diminue la survenue des complications sévères, notamment avec, au cours de l'essai multicentrique, un critère combiné qui associait les épisodes d'hypotension profonde, l'arrêt cardiaque ou les désaturations sévères en dessous de 80%. Mais finalement, dans ces études, aucune n'avait comparé une préoxygénation par oxygénothérapie à haut débit à une préoxygénation par VNI. C'est pourquoi nous avons conduit cet essai randomisé contrôlé multicentrique l'étude Florali 2 qui a comparé donc ces deux stratégies de préoxygénation.
Pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude?
Alors pour conduire cette étude, nous sommes donc intéressés aux patients hypoxémiques, c'est-à-dire ceux qui avaient un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300 mm de mercure. Et pour calculer ce rapport, nous avons estimé la FiO2 avec la formule suivante qui est 21% plus 3 multiplié par le débit d'oxygène. Mais nous avons en plus prévu, avant randomisation, une stratification sur le niveau de PaO2 sur FiO2 inférieur ou supérieur à 200 en raison des résultats des études précédentes où il semblait qu'en effet il n'y ait pas les mêmes résultats suivant la sévérité de l'hypoxémie des patients. Notre objectif principal était la survenue d'épisodes d'hypoxémie sévère définis par une SpO2 inférieure à 80%. Et pour rendre fiable ce critère de jugement, nous avons mis à disposition des 28 centres participants le même moniteur de saturation artérielle en oxygène qui permettait également d'enregistrer la SpO2 au cours de la procédure d'intubation et jusqu'à 30 minutes après l'intubation. Finalement, 313 patients ont été inclus. Dans les caractéristiques démographiques principales, celle qui nous intéresse, c'est la variable de stratification. Eh bien, en effet, 77% des patients avaient un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm de mercure. Donc les résultats, en ce qui concerne la survenue d'épisodes d'hypoxémie sévère, une SpO2 inférieure à 80%, il n'y avait pas de différence entre les deux stratégies de préoxygénation, avec 23% dans le groupe VNI versus 27% dans le groupe oxygénothérapie à haut débit nasal. Cependant, compte tenu de la stratification, on est tenu de réaliser un test d'interaction, c'est-à-dire déterminer s'il y a un effet du traitement vis-à-vis du critère de jugement principal, l'hypoxémie sévère, en fonction du groupe de traitement, ici la préoxygénation. Bien en effet, il y avait bien une interaction significative, ce qui nous impose de présenter les résultats en sous-groupe et non plus de manière globale. Et quand on regarde dans le sous-groupe des patients ayant une hypoxémie sévère à modérée, c'est-à-dire un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm de mercure, eh bien là, on avait une différence dans la survenue d'épisodes d'hypoxémie sévère, puisque dans le groupe VNI, seulement 24% des patients avaient un épisode d'hypoxémie sévère avec une SpO2 inférieure à 80%, versus 35% dans le groupe oxygénothérapie à haut débit nasal. Et cette différence devenait significative après un ajustement sur la PO2 à l'inclusion. Chez les patients qui avaient une hypoxémie légère, c'est-à-dire avec un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 200, il n'y avait pas de différence entre les deux stratégies de préoxygénation. Et quand on reprend l'évolution de la SpO2 au cours des différents temps de la procédure d'intubation, c'est-à-dire de baseline, fin de préoxygénation, durant la procédure d'intubation et après intubation, eh bien on peut voir que dans le groupe des patients les plus sévères, c'est-à-dire ceux qui avaient un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm de mercure, eh bien la SpO2 était significativement plus élevée en fin de préoxygénation dans le groupe VNI comparativement au groupe préoxygéné par oxygénothérapie à haut débit nasal. Et bien sûr, au cours de la procédure d'intubation, la SpO2 minimum était plus élevée dans le groupe ayant reçu une préoxygénation par VNI par rapport à l'autre groupe. Après intubation, il n'y avait pas de différence. Dans le deuxième sous-groupe des patients les moins sévères, ceux qui avaient un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 200 mm de mercure, eh bien, il n'y avait pas de différence sur l'évolution de la SpO2 tout au long de la procédure d'intubation. Enfin, en ce qui concerne le devenir des patients au cours du séjour en réanimation, il n'y avait pas de différence sur l'évolution des défaillances d'organes, la survenue de pneumopathie acquise sous ventilation, que ce soit de manière précoce ou retardée, la durée de ventilation et la mortalité à J28.
Quelles sont, d'après vous, les principales limites de cette étude ?
Alors oui, qu'est-ce qu'on peut voir comme limite à cette étude ? Et en tout cas, quelles sont celles qui ont été relevées aussi par les reviewers ? Bah, tout d'abord, nous n'avons pas évalué une préoxygénation par l'oxygène à l'embu. La raison est assez simple, c'est qu'en fait, après discussion avec différents centres, et notamment au sein du comité scientifique, il était difficile de revenir en arrière, c'est-à-dire de proposer une préoxygénation à l'oxygène à l'embu, alors que des études avaient montré que c'était soit inférieur ou, au mieux, identique, similaire à une préoxygénation à l'oxygénothérapie à haut débit. Et de fait, ça pouvait nous priver de certains centres participants. Une autre limite, c'est de ne pas avoir montré de différence en termes de mortalité entre les deux techniques de préoxygénation. Mais ce n'était pas le but de l'étude. Le but de l'étude, c'était de montrer comment sécuriser la procédure d'intubation en minimisant les risques de survenue d'hypoxémie sévère, qui est un facteur associé à la survenue d'arrêt cardiaque et donc de mortalité en réanimation. Et pour montrer une différence de mortalité, il aurait fallu inclure beaucoup plus de patients, puisque je vous rappelle que cet événement survient que dans environ 3, même dans moins de 3% des cas.
Cette étude doit-elle modifier notre pratique quotidienne? Et si oui, comment?
Alors, en ce qui concerne l'implication en pratique clinique de ces résultats. En résumé, cette étude montre que la VNI est bénéfique chez les patients les plus sévères et permet de diminuer la survenue d'hypoxémie sévère. Tandis que chez les patients les moins sévères, qu'on fasse de la VNI ou de l'oxygénothérapie à haut débit nasal au cours de la préoxygénation, le risque d'hypoxémie sévère est le même. Et en plus, dans les études précédentes, en effet, l'oxygénothérapie à haut débit nasal semblait supérieure à l'oxygène à l'embu au cours de la préoxygénation chez les patients les moins sévères en termes de saturation minimale ou de survenue d'hypoxémie sévère. Mais le problème, c'est qu'en pratique clinique, on ne dispose pas toujours du rapport PaO2 sur FiO2. Alors on peut aller au plus simple et réaliser une préoxygénation par VNI chez tous les patients pour diminuer le risque d'hypoxémie sévère par la ventilation non-invasive. Je terminerai sur cette recommandation et j'en profite pour remercier encore une fois tous les centres qui ont participé à l'étude Florali 2, également le réseau REVA et enfin la SRLF qui me donne l'opportunité de discuter les résultats de cette étude. Merci beaucoup.
Professeur Fratt, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de participer à l'émission Ligne de Mire et de nous avoir présenté votre étude concernant la VNI versus Optiflow en préoxygénation d'une intubation orotrachéale pour une insuffisance respiratoire hypoxémique.